Chapitre 12. La plupart des gouvernants de la cité appliquent ce vieux proverbe des temps d'avant la fondation des cités. Quand les événements vous échappent, feignez de les avoir organisés. Paolo Gazzale, petit précis à l'usage des inconscients qui prétendent gouverner une cité unifiée. Cité unifiée de Nilopa. La solidité de l'organisation de Nilopa posait question. Pour que les ombres aient réussi à perturber le système avec une telle facilité, c'était qu'ils présentaient des failles. Au sommet se tenaient les maires, désignés par le conseil tous les 5 ans, lui-même élu par la population selon un découpage administratif complexe, qui se modifiait au gré des intérêts des équipes municipales en place. Tous les ans, avec leurs adjoints réunis en conseil général, ils débattaient des grandes orientations économiques, alimentaires, écologiques, militaires et sécuritaires. Les municipalités de New York, Londres et Paris appliquaient ensuite les consignes avec plus ou moins de bonne volonté. C'était là, dans les rouages administratifs, que se fissurait l'unité de la cité. Les multiples groupes de pression et autres charognards essayaient de tirer le meilleur profit des nouveaux décrets. Les batailles faisaient rage pour les budgets et subventions, et nous, les fouineurs, réclamions notre part comme les autres, sans doute plus fort que les autres. Tous s'affrontaient avec la férocité de chiens se disputant des os. Les intérêts des uns et des autres, parfois contradictoires, finirent par désagréger le ciment indispensable à toute société humaine digne de ce nom, la solidarité. Ganesh était trop jeune pour conquérir et défendre sa place sur l'échiquier complexe de la CU. C'est sans doute ce qui lui permit d'explorer en toute inconscience la piste ouverte par sa conversation avec Vera, la prostituée. Il mettait le doigt dans un engrenage qui risquait de le happer tout entier, mais n'est-ce pas le rôle des âmes neuves d'explorer les zones ténébreuses de leur monde ? Ganesh constata à l'air courroucé de son vis-à-vis qu'il n'était pas le bienvenu. Il n'avait pas cru possible d'arriver jusqu'à la porte des appartements privés de son suspect, mais sa biopuce ayant décrypté ou neutralisé les différents codes d'accès, il avait franchi le triple sas avec une facilité déconcertante et inquiétante. « Qu'est-ce que vous fichez là, vous ?» La jeunesse apparente de Leito Mercante surprit Ganesh. Il ne connaissait son vis-à-vis que de nom. Il n'avait pas encore eu l'occasion de rencontrer les hauts responsables du corps des fouineurs. 6 corrections génétiques détectées. Cheveux, nez, menton, ventre, pénis, genou gauche. La biopuce de Mercante, en tout cas, ne lui assurait pas une intimité à toute épreuve. Ganesh avait cru comprendre, en parcourant son dossier dans certains domaines cryptés, qu'il était un protégé d'Alaric Brognier. Amant, suggéraient certains commentaires. Et que son titre de responsable en second du corps des fouineurs était de pure complaisance. Désolé d'interrompre votre soirée, monsieur, mais je dois impérativement vous parler.
Demain au bureau, mon vieux. Qui vous a donné l'adresse de cet appartement ?
Leito Mercante commençait à prendre conscience qu'il n'était pas aussi bien protégé qu'il ne l'avait pensé. Il serait préférable que nous ayons cette conversation en dehors du central, répondit calmement Ganesh. Mercante le congédia d'un geste de la main et commença à refermer la porte.
« Je suis occupé, une autre fois.
Et si je vous précise que je viens de la part d'un adepte de la main noire, appelé Philémon Barthès ?» lança Ganesh. Il perçut, malgré la lumière tamisée du palier, la légère crispation des traits de son interlocuteur. « Laissez-moi au moins le temps de prendre quelques dispositions, » reprit Leito Mercante d'une voix sourde.
« Bien entendu. »
« Attendez-moi ici. » Le responsable en second des fouineurs ferma la porte et laissa Ganesh seul sur le palier. « 7 personnes détectées à l'intérieur de l'appartement. » Il est sans doute protégé par des gardes du corps comme tous les hauts fonctionnaires. Un appartement comme ça, placé en plein cœur du 6e arrondissement, doit valoir une petite fortune. On pourrait craquer le système de sécurité ?
« Triple cryptage. Temps estimé, 45 minutes. »
Ce ne sera pas nécessaire. Le nom de Philémon Barthès était le plus efficace des sésames. Théo avait bien dit que les traces de certains membres de la main noire conduisaient à l'hôtel de ville. Il patienta environ 15 minutes avant que la porte ne s'ouvre à nouveau. Leito Mercante se glissa par l'entrebâillement et l'invita à le suivre. Ils traversèrent une large réception avant de s'engager dans un couloir. Le haut fonctionnaire introduisit son visiteur dans une pièce meublée d'un bureau, d'avant les cités, et d'un tapis oriental tissé main d'une grande fortune.
Vous m'avez contraint à renvoyer mes amis.
Mercante s'assit à son bureau et désigna une chaise à Ganesh.
J'espère pour vous que vous n'avez pas foutu ma soirée en l'air sans une excellente raison.
Une bonne raison pour moi ne l'est pas forcément pour vous, dit Ganesh en s'asseyant sur le bord du siège.
Très juste, Ganesh Parvati. Vous n'êtes pas fouineur depuis très longtemps, quelques semaines ou plus, n'est-ce pas? Comment se passe votre adaptation?
Pas trop mal, si j'en juge par votre récent séjour à New York et par votre présence chez moi. Permettez que j'allume une cigarette?
Leito Mercant saisit une cigarette dans une boîte nacrée, l'alluma avec un briquet doré et cracha une longue guirlande de fumée bleutée.
Eh oui, je fume, malgré l'interdiction du tabac.
Savez-vous que, selon les dernières statistiques, plus de 75% de la population fume occasionnellement ou régulièrement?
Et ceux qui ne fument pas s'envoient des nanoneurones dans le cortex.
Je suppose que c'est le prix à payer pour nous être coupés du reste de l'humanité.
Chacun supporte comme il le peut les barreaux de la cage.
Allez-y, débitez-moi vos salades. Nous n'avons pas de temps à perdre en formalité.
Ganesh trouva plutôt agréable l'odeur parfumée du tabac.
Comme vous voudrez, monsieur. Mes différentes enquêtes sur les ombres m'ont conduit à interroger un certain Philémon Barthès, un adepte du mouvement sataniste La Main Noire.
Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à lui?
Il a parlé à une prostituée d'un ennemi invisible et indétectable, qui était sur le point d'exterminer l'humanité. J'ai fait le rapprochement avec les ombres, et je l'ai retrouvé grâce au portrait que m'en a brossé la prostituée. Il m'a dit qu'il n'avait fait que répéter un peu stupidement les paroles d'un grand prêtre de La Main Noire. Je lui ai demandé s'il connaissait le nom de l'un de ses prêtres.
Leito Mercant l'interrompit d'un geste agacé.
Il vous a donné le mien et vous vous êtes pointé chez moi pour m'interroger, seul.
Je ne sais pas ce qui prédomine chez vous, la témérité ou l'inconscience.
Je souhaite seulement vous poser une ou deux questions, répliqua Ganesh sans perdre son calme.
Mercant fuma quelques instants en silence. Ses inhalations étaient brèves, nerveuses.
Qu'est-ce qui m'obligerait à répondre aux questions d'un fouineur débutant?
Je vous propose un marché. Vous répondez d'une façon que je juge satisfaisante et je ne révèle rien de ce que j'ai appris sur votre double vie.
Les lèvres de Leito Mercant s'étirèrent en une moue à la fois menaçante et méprisante.
Attention à ne pas être trop arrogant, mon jeune ami. Je n'aime pas qu'on s'introduise chez moi en pleine nuit pour me donner des ordres ou des leçons.
Vous savez comme moi que la curiosité est la première qualité des fouineurs et leur principal défaut.
Il vous faudra apprendre à l'utiliser à bon escient, ou vous ne ferez pas de vieux os dans Nilopa.
Ganesh attendit que son vis-à-vis ait terminé sa cigarette. Il ajoutait probablement des substances chimiques dans le tabac, euphorisantes ou stupéfiantes.
Selon réaction morphopsyché, trace probable de rhogomarol, une plante hallucinogène mutante poussant dans certaines zones du pays hors site.
En tant que grand prêtre de la Main Noire, vous avez chargé vos adeptes d'exécuter un certain nombre d'habitants de Paris, reprit Ganesh. Je croyais que la Main Noire appelait à l'extermination des populations hors site. Pourquoi vous en prendre aux citadins?
Leito Mercant fixa Ganesh avec une ironie teintée d'amusement.
Qu'est-ce qu'un petit fouineur comme vous pourrait comprendre au dessein de la Main Noire?
Vous n'avez pas répondu, monsieur. La question subsidiaire est, la Main Noire a-t-elle un lien avec les ombres?
Mercant posa les coudes sur son bureau et se pencha légèrement en avant.
À mon tour de vous proposer un marché, mon jeune ami. Je vous fournis quelques explications et vous n'aurez plus que deux choix. Devenir l'un des nôtres ou ne pas sortir vivant de chez moi.
Il faudrait encore que les trois gardes du corps qui se trouvent dans la pièce d'à côté réussissent à me neutraliser, riposta Ganesh.
Je suis responsable en second du corps des fouineurs. Vous, simple fouineur. À votre avis? Qui de nous deux est le mieux protégé?
Estimation des probabilités de neutralisation des gardes du corps, 45%. 62% en mode direct contrôle.
D'accord, monsieur. J'accepte de prendre le risque.
Londres passait pour être la ville la plus discrète et la plus tranquille de Nilopa.
Était-ce l'héritage du flegme légendaire qu'on prêtait aux Britanniques? Ou fallait-il voir dans ce calme apparent la marque d'un assujettissement presque total à la municipalité de New York?
Même si les deux langues, le français et l'anglais, étaient toutes les deux élevées au rang de langues officielles dans la cité unifiée, il existait entre Londres et New York une complicité naturelle tissée par l'histoire d'avant la Troisième Grande Guerre. Les deux cousines anglophones se liguaient la plupart du temps contre Paris. Quelques maires londoniens avaient bien tenté de se rapprocher de la municipalité parisienne, mais À chaque fois, les autorités new-yorkaises avaient usé de toute leur influence pour empêcher leur réélection. Nous savions que la pression de New York, toujours plus forte, déboucherait tôt ou tard sur un démantèlement en règle de la cité unifiée. Caton patientait depuis plus d'une demi-heure dans la salle d'attente aux murs vert sombre et aux boiseries vernissées, lorsqu'une jeune femme vêtue du tailleur réglementaire vint le chercher. Il s'éjecta d'un bond du fauteuil de cuir et souffla bruyamment, autant pour exprimer que contenir sa mauvaise humeur. Lawrence McConick, le maire de Londres, l'accueillit d'un sourire typiquement anglo-saxon et lui tendit la main. Caton la serra rapidement. « Pourquoi m'avez-vous demandé de me présenter physiquement à votre bureau, monsieur ? Nous aurions dû utiliser notre domaine de communication. La municipalité de Paris est en pleine ébullition et il m'a fallu monter tout un scénario pour justifier mon absence. » Lawrence McConick le pria de s'asseoir. Ses gestes empreints de distinction ne tombaient jamais dans l'obséquiosité. Grand, mince, brun, le maire de Londres était souvent cité en exemple dans les médias pour son élégance et son raffinement. Un bon administrateur, sans doute, puisqu'il avait été réélu 4 fois de suite avec une marge confortable sur ses concurrents. « Allons, Caton. Londres n'est qu'à 1 heure de Paris et nous n'avons qu'une confiance limitée dans le cryptage des domaines privés de communication. » Il s'exprimait dans un français parfait et sans accent. Des éléments nous amènent à penser que des oreilles indiscrètes ont perçu certaines de nos conversations. Ici, au moins, nous pouvons parler en toute tranquillité. Mon bureau est parfaitement isolé. Caton exprima ses doutes d'une moue prolongée. « Vous pensez vraiment que cette pièce est isolée ?» Certains appareils peuvent capter un chuchotement à plusieurs kilomètres de distance. Pas si les murs sont tapissés d'un alliage spécial qui empêche tout son et toute image de sortir d'une pièce. Décontractez-vous, Caton. Vous êtes en parfaite sécurité au cœur de la mairie de Londres. Un whisky, peut-être ? Merci. Je ne bois jamais d'alcool. Le maire de Londres se fendit d'un sourire condescendant. Le whisky n'est pas de l'alcool, mais l'alcool, l'unique. Enfin, je parle du bon, du vrai, pas de ces horribles imitations que les trafiquants essaient de faire passer pour du whisky. On n'en produit plus depuis la fermeture des cités unifiées, mais je dispose d'une réserve personnelle qui m'accompagnera jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi m'avez-vous convoqué ? Pour me parler du whisky ou des ombres ? Permettez que je me serve ? Lawrence McConick sortit une bouteille d'un tiroir de son bureau et se servit une bonne dose de liquide ambré. « Les ombres ne sont qu'un accident de parcours, » fit-il après en avoir bu une gorgée, les yeux clos un moment pour en apprécier la saveur. « Un navrant concours de circonstances. Elles nous tiennent en échec pour l'instant, mais elles finiront tôt ou tard par commettre une erreur. »« J'admire votre optimisme, » répliqua Caton. « Elles ont tué une bonne 20aine de milliers de citadins et n'ont pas commis la moindre erreur. » Le maire fit tourner le whisky dans son verre. Mais on peut dire qu'elles tombent à point nommé. La psychose qu'elles engendrent sert parfaitement notre projet. Pour l'instant, sauf que la population de la CU est excédée, prête à se retourner contre toute forme d'autorité si nous ne trouvons pas rapidement une solution. Chaque chose en son temps. Un autre problème nous préoccupe. Nous nous heurtons à une opposition interne organisée. Caton essaya de sonder les yeux noisettes de son interlocuteur, mais n'y lut aucune émotion. Lawrence McConick faisait partie de ces hommes passés maîtres dans l'art de la dissimulation mentale. En comparaison, Alaric Brognier, le maire de Paris, était un livre ouvert. Je croyais que les grubs dissidents avaient été éliminés. Presque tous. Lawrence McConick but une nouvelle gorgée de whisky. Quelques-uns nous ont échappé et se sont évanouis dans la nature. Leur biopuce ne devrait pourtant pas être très difficile à localiser. Sauf s'ils ont trouvé le moyen de s'en séparer ou s'ils sont sortis du périmètre de la CU. Caton se demanda si son interlocuteur lui disait la vérité ou s'il ne lui en fournissait qu'une version partielle. Ne jamais accorder une confiance aveugle aux hommes politiques, un principe qui lui avait permis de conquérir et de défendre une bonne place sur l'échiquier de Nilopa. Ni l'une ni l'autre hypothèse ne me paraît vraisemblable. Les biopuces sont reliées au cortex par les tissus organiques. Impossible de les retirer sans provoquer des lésions irréversibles dans le cerveau. D'autre part, si les dissidents avaient tenté de sortir du périmètre de la CU, les satellites nous l'auraient signalé. Nous en sommes arrivés aux mêmes conclusions, Caton. Ils ont donc trouvé une forme de brouillage ultime. Il nous faut d'urgence comprendre comment ils échappent à toute investigation et retrouver leurs traces. Certains de mes ferrets ont été contactés, tout comme certains de vos fouineurs. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour savoir qui. »
Le maire de Paris m'a donné le même ordre, mais pas pour les mêmes raisons.
McConick chassa un invisible insecte d'un geste négligent.
« Bah, lui, il ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. »
Ganesh ne t'aurait pas contacté, Ava? Ce n'est pas dans ses habitudes de me laisser si longtemps sans nouvelles.
Théo jeta son imperméable sur le perroquet et, toujours coiffé de son chapeau, fonça directement dans le coin cuisine.
« Je serai bien la dernière qui l'appellerait, »
répondit Ava, assise sur la chaise en face du bureau. « Il n'a pas l'air de me porter dans son cœur. »«
Tu veux un thé, un café ?»«
Un thé, je veux bien. »
Théo remplit d'eau la bouilloire et glissa deux sachets dans la théière.
Faut pas lui en vouloir. Il a eu un moment difficile quand sa petite amie a disparu. Il y tenait beaucoup, même s'il s'efforçait de ne pas le montrer. On s'était partagé la tâche, mais j'aurais pas dû le laisser investiguer seul dans les milieux satanistes.
« Je suppose qu'il sait se défendre, » objecta Ava.
« Comme tout fouineur. Mais une biopuce et un taz ne suffisent pas contre certains adversaires.
« Vous avez essayé de le joindre ?»«
J'arrête pas depuis ce matin. Mon biophone ne répond pas, comme s'il était hors de portée des réseaux. » La seule chose qui me reste à faire, c'est d'entrer en contact avec la gémine qui le suit.
Ava se leva et posa les mains sur le petit bar séparant le coin cuisine du reste de la pièce.
Chaque fouineur est suivi par une gémine?
En principe. Elle nous localise en permanence sur la carte de la CU.
Si elle n'a pas prévenu, c'est qu'elle n'a pas constaté de problème.
Ou que sa communication est restée bloquée quelque part dans les arcanes hiérarchiques. Normalement, les communications des gémines ne vont que dans un sens. Les fouineurs ne sont pas autorisés à les joindre. Mais je vais faire comme d'habitude. Une exception.
Ava prit la tasse que Théo lui tendait et souffla sur le thé bouillant.
Comment comptez-vous franchir les barrages?
Avec le temps, on apprend à craquer tous les systèmes de protection. Celui des gémines comme les autres.
Théo reposa sa tasse sur le bar et leva les mains.
Je ne suis pas censé te montrer ce genre de truc, hein?
Ne vous inquiétez pas. Même si je suis une fille, je suis tout à fait capable de garder un secret.
Bien, c'est comme ça qu'on se fait sa place dans la grande fraternité des fouineurs.
On a entretenu beaucoup de mystères, beaucoup de fantasmes au sujet des gémines. On aurait pu dire qu'elles étaient les anges gardiens des fouineurs, leur voix ou leur conscience par instant. Reliées en permanence aux matrices des cités, elles nous contactaient quand elles nous savaient en danger ou que nous étions sur le point de sortir des limites de la CU. Mais hormis le son de leur voix, nous ne savions rien d'elles. Nous n'avions pas l'autorisation de les appeler, encore moins de les rencontrer, et ne devions nouer aucune relation personnelle avec elles. Selon les fondateurs du corps des fouineurs, l'efficacité du couple fouineur-gémine reposait en grande partie sur la neutralité affective.
Je suis
Théodore Bernier, fouineur de troisième grade, je sais,
coupa Mina.
Vous n'êtes pas censé appeler aux centrales des gémines, et je ne suis pas censé vous répondre. Notre conversation pourrait être interceptée.
D'accord, pas la peine de vous fatiguer avec votre baratin. Je suis inquiet au sujet de Ganesh, et je voulais savoir si vous aviez des nouvelles.
Comment vous êtes-vous branché sur notre fréquence?
Permettez que je garde certains de mes petits secrets. Donnez-moi plutôt des nouvelles de Ganesh.
Je ne suis pas autorisé à vous répondre.
C'est peut-être une question de vie ou de mort, bordel! Vos autorisations, mettez-les-vous, je pense! Les ombres, elles se foutent bien de nos règles administratives.
Théo s'efforça de recouvrer son calme.
Est-ce qu'au moins vous le localisez encore sur la carte?
Le fouineur Ganesh Parvati fait l'objet d'un traitement spécial. Je ne peux vous en dire plus.
Ça a un rapport avec sa disparition?
Je vous en ai déjà trop dit.
Ne vous inquiétez pas, cette conversation ne sortira pas de cette pièce. Nous sommes protégés par un cryptage programmé par mes soins, inviolable.
Vous n'avez pas la moindre idée de la puissance de certains logiciels.
Vous avez eu des contacts avec Ganesh?
Jamais direct. Je me contente de l'observer.
C'est pas le rôle habituellement dévolu aux gémines.
Je fais ce qu'on me dit de faire.
Qui ça, on?
Je ne peux pas répondre à cette question. Je vais devoir interrompre cette conversation. Vous nous faites courir à tous les deux de gros risques.
Est-ce qu'au moins vous pouvez me dire si Ganesh va bien?
Désolé. Je ne peux fournir de réponse à cette question.
La communication s'interrompit.
Théodore frappa violemment le bar du plat de la main.
La conne!
« Vous ne pouvez pas lui en vouloir, » intervint Ava. « Elle ne fait qu'appliquer les consignes. »
Théo vida sa tasse de thé d'un air sombre.
« Voilà de quoi crève la cité unifiée, Ava. De ces putains de consignes. »
Ne tuez pas le traître. considérez-le comme un ami. Le traître peut être votre meilleur allié en vous enseignant la méfiance, la vigilance. Il est le lien privilégié avec vos ennemis. Proverbe de Trois Aubes. Pays hors site.
On ne dormait que d'un œil à Trois Aubes pendant un conflit. Des hommes pouvaient surgir à tout moment dans votre maison pour vous égorger, vous et les vôtres. Cela, même si vous n'apparteniez à aucun des clans impliqués dans la guerre. Parce que on convoitait vos biens, votre femme, vos enfants ou vos esclaves. Parce que vous aviez la mauvaise fortune d'être situé sur le territoire où se déroulait la bataille. Parce qu'on avait besoin de votre habitation pour tendre un piège à l'ennemi. Bref, une guerre ne se révélait jamais une bonne affaire pour la population d'une agglomération. Les cartes étaient redistribuées. Vous pouviez tout à coup vous retrouver dans le camp des prisonniers vendus à la criée ou avec les fuyards réfugiés dans les forêts qui finissaient égorgés et dévorés par les tribus sauvages. La seule chose que vous eussiez à faire, finalement, c'était d'attendre, en espérant être l'enfant béni de Dame Chance.
Les deux gardes gisaient sur la terre battue, l'un tué d'une balle dans la nuque, l'autre transpercé en plein cœur par une lame d'acier. Pitbus essuya d'un revers de manche son front maculé de gouttes de sang. Il avait perdu trois de ses hommes dans l'affrontement. Il ne lui en restait plus qu'un. Il fallait finir le travail. Il récupéra la clé de la chambre sur le cadavre de Yézip, la tourna dans la serrure, entrebâilla la porte, mais n'entra pas.
« Va donc me tuer cette satanée vigie, Kalp. La fille, fais-en ce que tu veux. »
Kalp, homme de petite taille aux épaules larges et aux bras aussi épais que des troncs d'arbres, remisa sa dague dans le fourreau de cuir qui lui battait la cuisse. C'était un bon combattant, que Pitbus avait recruté en lui promettant un poste honorifique et une vaste demeure, après la réorganisation du clan.
« Fais-le toi-même, Pitbus. »«
Qu'est-ce qui m'a foutu un bras cassé pareil ?»«
Il a jamais été question de tuer la vigie, »
grommela Kalp, buté.
« Bon Dieu, il faut tout faire soi-même ici. Donne-moi ta putain de dague !»«
Sers-toi de tes propres armes, Pitbus. »
Pitbus contint sa colère. Il avait besoin d'alliés comme Kalp pour assouvir ses ambitions.
« La confiance règne !»
Kalp resserra rapidement les tresses qui tombaient de chaque côté de son visage raviné.
« Les autres clans vont bientôt nous déclarer la guerre. Je crois pas que ce soit le bon moment pour tuer une vigie. Comment peux-tu savoir ce qui est bon pour le clan du lynx, Kalp ?»«
J'en sais rien. Je connais pas ces trucs-là, mais je suis reconnaissant à Dronka d'avoir préservé les intérêts de notre clan. »
Pitbus vérifia le barillet de son revolver. Il lui restait trois balles. Largement de quoi se débarrasser d'un homme guère plus gros qu'un rat noir. Mais il hésitait. Un proverbe disait que tuer une vigie apportait le malheur sur un homme, sur sa famille, sur le clan, pour des siècles et des siècles.
Dronka a peut-être pas été aussi avisé que tu le dis.
Mais t'as vu que son seul tort, c'est d'avoir échauffé un serpent dans son sein, insinua Kalp.
Surveille tes paroles.
Pourquoi? J'ai nommé personne.
« Va au diable! Je m'occuperai moi-même de la vigie !»
Il poussa la porte du pied, le pistolet pointé devant lui. La surprise le pétrifia. La pièce était vide.
« Il n'y a plus personne !»
souffla-t-il. Kalp s'introduisit à son tour dans la chambre. Ses yeux sombres se promenèrent sur les deux matelas, sur la petite table, sur les gamelles vides, et repérèrent un orifice dans un coin du mur.
« L'oiseau s'est envolé par là, on dirait !» « Normal. S'il est vraiment une vigie, il n'a pas tranquillement attendu que tu viennes l'égorger. »«
Au nom du ciel, Kalp, tu ne fermes donc jamais ta grande gueule !»
maugréa Pitbus. Kalp sortit de la pièce et s'éloigna dans le couloir.
« Je vais faire mon devoir maintenant »
cria-t-il.
« Combattre pour mon clan !»
La règle de base lors d'une guerre entre clans, c'était de fermer ses portes, ses fenêtres et son cœur à la pitié. Delune emprunta la première ruelle plongeant dans le cœur de l'agglomération. Les ululements des chouettes se mêlaient aux vociférations, aux hurlements, aux gémissements. Aucune lueur ne brillait dans la nuit sombre, désespérante, qui ensevelissait Trois Aubes. Aucune étoile, aucune torche. Des silhouettes se glissaient entre les habitations aussi silencieuses que des spectres. Delune avait attendu que Gwenil s'endorme pour sortir de sa maison. Il n'avait pas la patience d'attendre l'aube pour se rendre à la maison de Dronka et vérifier que la vigie dont avait parlé la vieille femme était Yosp. Une voix l'interpella.
« J'ai soif ! Par pitié !»
De Lune se retourna et aperçut quelques mètres plus loin une silhouette suspendue, comme flottant dans les airs. Il s'en approcha et découvrit un homme, cloué par les poignets et les chevilles, au bois d'une porte. Le supplicié, un vieil homme au crâne chauve, avait perdu beaucoup de sang et respirait avec difficulté. On lui avait arraché ses vêtements. On ne lui avait laissé qu'un maillot de corps trop court qui ne dissimulait pratiquement rien de son corps usé. De Lune tenta d'arracher l'un des énormes clous qui s'enfonçaient dans son poignet. « Désolé, il est trop profondément planté et je n'ai rien pour vous soigner. »
« Vous ne devriez pas vous balader la nuit, tout seul. »
gémit l'homme. « Vous êtes de quel clan ?»«
Lynx. Ils me sont tombés dessus à quatre. »
De Lune fut envahie d'une tristesse mêlée de colère. Rien de pire pour un guérisseur du haut lieu que d'être incapable de soigner un blessé, que d'assister, impuissant, compatissant, à son agonie. « Où se trouve la maison de votre chef ?»«
En haut de la ville, au bout de la grande rue.
Pourquoi ?»« Je dois vérifier quelque chose. » »«
Ils vous tueront. »
De Lune refoula des larmes. Il pleurait avant tout sur lui-même, pauvre brin d'herbe chahuté par les vents de la folie humaine.
« Où qu'on soit, on risque la mort, »
murmura-t-il.
« Dans la rue, dans son lit, dans sa cave. Je fais confiance à la vie. Si c'est mon destin de mourir, je mourrai. »«
Achève-moi !»
De Lune recula d'un pas. L'homme empestait déjà la mort. Des rats remuaient dans l'obscurité.
« Je suis guérisseur. Je n'ai pas le droit de prendre la vie. »«
S'il te plaît, je souffre le martyre. » Les rats noirs tournent autour de moi, je ne veux pas être mangé vivant. »
Les larmes roulèrent cette fois sans retenue sur les joues de Delune.
« Je ne peux pas.
J'ai tué une fois dans ma vie et ça m'a marqué au fer rouge. S'il te plaît, »
répéta l'homme.
« Ces lueurs, les yeux des rats noirs, ils me guettent. Je veux pas mourir comme ça. »
La détermination de Delune s'effrita d'un seul coup, rompue par ses émotions. Abréger ses souffrances était le seul service qu'il pouvait rendre à cet homme.
« Je n'ai pas d'arme. »
« Par terre, mon poignard. Prends-le et plante-le dans mon cœur. »
De Lune repéra le poignard à demi enfoncé sous la porte et le ramassa. Une vieille lame cabossée aux manches de bois fissurées.
« Je demande pardon à tous les maîtres du haut lieu. »«
Qu'est-ce que t'attends ?»
implora l'homme. Poussant un hurlement de rage, De Lune planta de toutes ses forces la lame dans la poitrine du supplicié. Le choc lui endolorit le poignet et l'avant-bras jusqu'au coude. L'homme expira sans un cri. Le guérisseur crut voir flotter un sourire sur ses lèvres blêmes avant que sa tête ne retombe sur sa poitrine.
Paix à ton âme.
Il jeta le poignard par terre et, baignant dans une tristesse insondable, se remit en marche, en direction du haut de l'agglomération.
Qui va là ?
Les coups puissants donnés sur sa porte avaient réveillé Gwenyl en sursaut. Les lueurs dansantes de torches se glissaient par les interstices. La mort se présentait chez elle. Fouillant la pièce principale des yeux, elle s'aperçut que De Lune avait déserté la paillasse qu'elle lui avait préparée.
« Nous cherchons un certain De Lune, et nous savons qu'il est chez toi !»
fit un homme. Le sang de Gwenyl se glaça lorsqu'elle reconnut la voix d'Ezoc.
« Tu es Ezoc, le guérisseur du clan, pas vrai? Pourquoi tu cherches De Lune? Ça ne te regarde pas, femme! Où est-il »
Gwenyl s'assura une nouvelle fois que De Lune était bel et bien parti.
« Pas là, en tout cas. Tu mens, femme. Fouillez-moi cette baraque, vous autres !» Je ne vous permets pas de... Je n'ai pas besoin de ta permission. Allez-y. »
La porte s'ouvrit dans un fracas de bois brisé et livra passage à deux hommes munis de mâts hérissés de piques. Un troisième s'introduisit sur leurs talons dans la pièce, immédiatement reconnaissable à son visage asymétrique et à sa cape de fourrure grise, brandissant une courte torche dont la flamme vive tenait les ténèbres en respect. Les deux sbires renversèrent tables, chaises et meubles et explorèrent tous les recoins de la maison.
« Ezoc ! Tu devras répondre de ta conduite devant le chef de notre clan !»
gronda Gwenyl.
« Gras ! Trop occupé ces temps-ci. La guerre a commencé contre le lynx, il m'a chargé de mettre fin à la malédiction de De Lune. S'il y a un être maudit à trois aubes, C'est pas de lune !»
Ezoc toisa la vieille femme avec un rictus de mépris. « Il porte le tatouage du serpent, le symbole des forces du mal.
Toi, tu portes la haine dans le cœur, » répliqua Gwenil. « Tout le monde sait ce qui s'est passé dans la maison de Grar. Delune a réussi à guérir le vénéré chef de ses vieilles douleurs aux reins, tandis que toi, t'en as pas été capable. Tu veux le tuer parce que t'as la trouille qu'il te pique ta place. »
Le bras d'Ezoc se détendit à la vitesse d'un fouet et sa main gifla Gwenil à toute volée. Déséquilibrée par la violence de l'impact, elle s'affala sur une chaise renversée.
« Ferme le cloaque qui te sert de bouche, femme !»
Elle se dépêtra de la chaise, se releva comme elle le put et remit de l'ordre dans ses vêtements.
« Il n'y a personne d'autre qu'elle dans cette maison !»
déclara l'un des sbires.
« Vous en êtes sûr ? Sûr et certain, l'oiseau s'est envolé !»
Personne ne l'a vu partir, pourtant.
Les deux sbires se consultèrent du regard, puis l'un d'eux, prenant son courage à deux mains, déclara
« C'est un sorcier, on ne devrait peut-être pas le... »«
Vous n'allez tout de même pas avoir peur de ce blanc-bec !»
vitupéra Ezoc.
« Tu viens toi-même de le dire, il est la porte de la malédiction !»
argumenta le sbire.
« Il risque d'attirer le malheur sur nous !»«
C'est la raison pour laquelle nous devons l'éliminer au plus vite !»« N'écoutez pas ce vieux fou, vous autres !»
intervint Gwenil.
« Lui, c'est un sale empoisonneur, tandis que Delune est un vrai guérisseur. La malédiction, elle vous tombe dessus quand on s'attaque à un guérisseur. La preuve, Dark, mon homme, est mort après avoir vendu Delune à la criée. « Tu vas la boucler, vipère !»
rugit Ezoc. Il tira un pistolet de sa cape et le braqua sur la vieille femme. Gwenil s'avança vers lui en évitant de regarder le petit œil sombre de l'arme qui la fixait. Sa peur était tombée comme un vent d'été.
« Si tu étais un vrai guérisseur, Ezoc, tu ne braquerais pas ton flingue sur moi. Tu n'en porterais même pas. T'es qu'un usurpateur. Celui qui préserve la vie ne peut pas donner la mort. »«
Qu'est-ce qu'on fait, Ezoc ?»
demanda un sbire.
« Enlève le camp. Tu ne paies rien pour attendre, Gwenil. »« Ne remets plus les pieds dans cette maison, Ezoc, »
riposta Gwenil.
« T'es pas le bienvenu. »«
Encore une fois, femme, je me passerai de ta permission. » Le guérisseur baissa son arme, s'enroula dans sa cape et sortit, suivi de ses hommes de main. Inépuisables étaient les ressources humaines. Alors qu'on les croyait sur le point de disparaître à jamais, alors qu'on ne leur donnait plus une seule chance, les êtres humains avaient cette intelligence de la survie qui leur permettait de trouver des solutions inespérées. L'espèce résolue à prendre leur place devra faire preuve d'une détermination féroce et d'une supériorité écrasante pour les éradiquer de la surface de la Terre. Ils marchaient depuis un long moment dans le souterrain, avançant au jugé, butant parfois sur des pierres, pataugeant dans des flaques d'eau. Naya s'arrêta et attrapa Yosp par l'épaule.
« Il me semble entendre des bruits. »
Yosp resta un moment aux aguets, les yeux mi-clos.
« Les heures me disent... Pitbus, il arrive.
Tu veux dire qu'il nous suit dans le souterrain?
Il porte une flamme. Il marche dans l'eau. Il y a une bête avec lui. »
Cela faisait un peu moins d'une heure qu'ils avaient traversé la rivière souterraine au fort courant qui empruntait le conduit du tunnel sur plusieurs centaines de mètres avant de disparaître sous une paroi. Yosp tremblait de froid dans ses vêtements encore mouillés.
Pitbus s'est lancé à notre poursuite,
murmura Naya.
Et il a un chien. Il faut accélérer l'allure.
Elle saisit Yosp par le bras et se mit à courir. Ils foncèrent dans l'obscurité totale, craignant sans cesse de buter sur un obstacle, franchir une flaque d'eau large mais peu profonde, s'enfoncèrent dans un lit de boue.
Je suis fatigué,
souffla Yosp.
Je peux pas suivre.
Encore un effort. On ne doit pas être loin de la sortie.
Elle le tira par le bras pour le forcer à continuer.
Il nous retrouvera facilement avec son chien,
protesta Yosp. On marchera dans un cours d'eau pour brouiller la piste.
Pas un cours d'eau, je veux pas!
C'est ça ou finir découpé en petits morceaux?
J'ai peur, je veux pas, j'ai peur!
Naya tirait tellement fort sur le bras du petit homme qu'elle craignait à tout moment de le déboîter.
Tu veux que je te porte?
Yosp n'hésita qu'une seconde.
D'accord.
Naya s'accroupit. Yosp lui mit les bras autour du cou. Oubliant la répulsion qu'elle éprouvait à son contact, elle se releva, étonnée de la légèreté du petit homme, et reprit sa course. Les aboiements se rapprochaient. Elle espéra que le souterrain déboucherait bientôt à l'air libre et qu'elle trouverait, dans les parages, un cours d'eau qui lui permettrait de déjouer le flair du chien. Arrivé devant la maison de Dronka, reconnaissable au symbole du lynx gravé sur le linteau de la porte, De Lune n'eut pas longtemps à chercher pour trouver un moyen d'entrer. Les hommes censés garder l'une des entrées latérales gisaient tous les deux sur le sol, le cou entaillé d'une oreille à l'autre. Il enjamba les cadavres et pénétra dans la maison plongé dans le silence. Comme l'habitation disposait de plusieurs ailes et annexes, il décida d'en explorer systématiquement chaque pièce. Une tenace odeur de sang et de poudre imprégnait les ténèbres. Il visita d'abord plusieurs chambres aux lits inoccupés. Il traversa une première cour intérieure où des rats noirs, se disputant des restes de nourriture, se dispersèrent à son approche. L'aube ne tarderait pas à se lever, à en croire les traits légèrement plus clairs transperçant le ciel à l'horizon. De Lune vérifia une salle meublée d'une longue table et une cuisine, puis, alors qu'il s'apprêtait à passer dans l'annexe suivante, on l'apostropha.
« Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es pas du lynx ?»
Le vieillard, armé d'un fusil encore plus âgé que lui, sortit de la pénombre et s'avança vers lui d'un air menaçant.
« Je ne suis d'aucun clan, » répondit De Lune. « Je venais seulement vérifier quelque chose. »
Son vis-à-vis ne semblait guère convaincu par ses arguments.
« Tu sais où t'es? Dans la maison de Dronka, le chef du clan du lynx. T'as rien à faire là. Fiche le camp avant que je te tire une cartouche dans le ventre !»
De Lune écarta les bras pour montrer que ses intentions étaient pacifiques.
« Tu as certainement entendu parler de la vigie, c'est elle que je voulais voir. »
Le visage de son vis-à-vis, déjà plus plissé que l'écorce d'un arbre mort, se hachura encore davantage.
« Comment t'es entré d'abord ?»«
Comme tout le monde, par la porte. »«
Il y avait des gardiens devant la porte. » »«
Ah, tu veux sans doute parler de ces deux hommes à qui on a fait un large sourire dans le cou ?»«
On les a égorgés ?»
Ça y ressemblait drôlement en tout cas.
Des lueurs sombres s'allumèrent dans les yeux renfoncés du vieillard.
« C'est toi qui as fait ça? Tu as du sang sur les mains ?»«
Je ne porte jamais d'armes. Ce sang, il vient d'un mourant qui m'a supplié de l'achever avec son propre poignard. »«
Et moi, je crois bien que tu mens. Je crois que tu fais partie des clans qui ont déclaré la guerre aux lynx. »«
Vos guerres ne me concernent pas. Je veux seulement parler à la vigie. »«
Tu la trouveras pas ici. Pitbus est venu chercher un chien pour se lancer à ses trousses. »
Pourquoi la recherche-t-il?
Pour la tuer, tiens!
Est-ce qu'elle est accompagnée d'une fille?
Dans l'attente de la réponse, la respiration de De Lune se suspendit.
La maigriotte? Pas grand-chose d'une femme, celle-là. Plus maigre qu'une renarde en hiver.
Le vieillard s'interrompit comme frappé par une soudaine évidence.
Hé! Comment tu sais ça, toi?
Pourquoi vous voulez le tuer, la vigie?
Les vigies, c'est rien que des emmerdes et compagnie. De leur bouche coule le malheur.
Et la fille?
Oh, elle. Elle sera vendue ou jetée au rat, selon l'humeur de Pitbus. Maintenant tu dégages ou...
Des voix, des vociférations, des claquements, des cliquetis, des hurlements enflèrent tout à coup dans l'obscurité.
Qu'est-ce qui se passe encore?
Gronda le vieillard.